France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Ersine Karabulut. Vous dites au début, je vais vous raconter. Et j'ai vraiment eu l'impression que vous m'avez prise par la main et que je vous ai suivie dans vos aventures. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup ri au début de votre naïveté, de votre candeur, de vos défauts que vous confessez avec beaucoup d'humour. Vous avez fait preuve de beaucoup d'autodérision.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Ça dessine jusqu'à l'insomnie aujourd'hui dans votre book club. Ersine Karabulut est scénariste, dessinateur, coloriste, reconnu en Turquie dans le deuxième tome de son journal Inquiet d'Istanbul. Il revient sur l'ébullition des années 2007-2017 qui voit naître l'un des hebdomadaires d'humour les plus prestigieux du pays. Avec des collègues tous plus talentueux et loufoques les uns que les autres, il participe à faire vivre cette aventure. Sa bande dessinée nous le raconte tout en tissant à ses récits des souvenirs d'enfance et d'adolescence. L'arrivée au pouvoir d'Erdogan, les manifestations mais aussi la survenue des attentats à la rédaction de Charlie Hebdo à Paris viennent souligner la fragilité et la nécessité des contre-pouvoirs. Ersine Karabulut est notre invitée. Vers 15h50, lecture jeunesse comme chaque mercredi avec Mathilde Wagman pour un triangle gagnant aujourd'hui entre enfance, littérature et philosophie. Et en fin d'émission, on jouera avec vous au grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Ersine Karabulut.
Merhaba.
Merhaba, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
Et merci avant toute chose, merci de m'accueillir.
Et bonjour à vous Kerem Topuz, vous serez l'interprète de cette conversation. Merci beaucoup d'être avec nous. La bande dessinée Journal Inquiet d'Istanbul 2007-2017 a paru ici en France aux éditions d'Argo. Bienvenue donc dans le Book Club. Ici c'est une émission qui fait une grande place au plaisir de la lecture ou peut-être à l'aventure que l'on a avec la littérature, les livres, qui n'est pas toujours d'ailleurs une aventure de plaisir. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous souvenez où, quand, dans quel décor, à côté de qui, Ersine Karabulut, vous avez appris à lire?
Aslında bana galiba ilk olarak ablam, benden 4 yaş büyük ablam okumaya. Alors si je m'en souviens bien, c'est ma sœur qui est 4 années plus âgée que moi qui m'a appris à lire.
Evde öyle çok fazla kitap olduğunu söyleyemem. Fakat bulduğum her
şeyi. Je ne peux pas dire qu'il y avait énormément de livres à la maison, mais franchement, je lisais tout ce qui me tombait sous la main.
Bazı Rus klasikleri vardı.
Il y avait quelques klasiks russes, Dostoyevski, Tolstoy.
Onlarla ilk olarak çok sevmiştim kitap okumayı. Ardından
c'est grâce à eux que j'avais adoré le fait de lire ensuite.
Ardından daha çok Türk bazı yazarlarla okumaya çok aşık oldum.
Ensuite, j'ai abordé certains écrivains turcs qui m'ont énormément plu.
Aziz Nesin mesela.
Aziz Nesin.
Büyük bir isim. Hatta işte
c'est un nom très important. En 1993, en Turquie, ils ont mis le feu à un hôtel où il se trouvait en essayant tout simplement de le tuer.
Arkasından ortaokul yıllarında Jack London'ın bütün kitaplarını
okudum. Collège, je pense avoir lu l'ensemble des livres de Jack London.
Edgar Allan Poe okudum.
Edgar Allan Poe.
Daha ilerleyen yıllarda
dans les années Bukowski, qui ont suivi Bukowski,
John Fante,
John Fontaine.
Ama sonra ne okudum mesela?
Qu'est-ce que j'ai pu lire d'autre?
Ya aklıma sadece şu an
c'est ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Palahniuk okudum tabii ki.
Kimi?
Palahniuk.
Palahniuk.
Fight Club, Fight Club'ın yazarı falan.
L'écrivain de The Fight Club.
Son yıllarda eskisi
kadar. Au cours des dernières années, je ne peux pas dire que je sois vraiment un lecteur assidu.
Kendimi daha çok yazmaya ve çizmeye verdim galiba.
Je pense que j'ai consacré beaucoup plus de mon temps à dessiner. Et à écrire.
Vous vous êtes mis à sourire lorsque vous avez évoqué dans cette énumération, Ersine Karabulut, le nom de John Fante et de Bukowski. Pourquoi est-ce que ces deux noms-là ou l'évocation de ces deux lectures-là vous ont fait sourire particulièrement?
Galiba hayatımda sevdiğim bazı zamanları hatırlatıyorlar bana.
J'ai l'impression que cela me rappelle certains moments heureux de ma vie, le début de l'université comme beaucoup d'autres.
Dolayısıyla herhalde o gülümseme oradan geliyor.
Je pense que mon sourire
çok güzel hatırlarım.
Venait de là et je me souviens toujours aujourd'hui parfaitement bien de l'époque où je lisais Bukowski.
Alors justement, quand on évoque Bukowski ou qu'on évoque John Fante, il y a aussi l'idée d'un rapport à l'existence qui peut être empreint de désespoir, mais aussi d'humour. Ce sont des auteurs où à la fois on va dans la noirceur, mais on peut rire en les lisant. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, Ersin Karabulut, de trouver matière à rire dans vos lectures ?
İkisini birden galiba çünkü özellikle Bukowski'de
je pense que je cherche à la fois le rire et le sombre surtout chez Bukowski où vous pouvez trouver les deux à la fois
ve birçok edebiyat eserinde
dans beaucoup d'œuvres littéraires
şey diyeceğimiz düzgün diyeceğimiz şeylere karşı durabilen bir yazardır ya Bukowski.
Bukowski est quelqu'un qui qui se lève contre des choses qui sont acceptées dans la société, qui adore renverser ce que l'on considère comme étant tabou.
Özellikle bir öğretmen çocuğu olarak, iki öğretmenin çocuğu olarak böyle düzgün bir ailede
ahlaklı
kendimden bahsediyorum.
Mais en plus, j'ai deux parents, mon père et ma mère étaient tous les deux professeurs, instituteurs.
Onları okumak benim çok gözlerimi açmıştı.
Et donc la lecture de ces auteurs, comment vous dire, m'a ouvert les yeux en quelque sorte.
Ouvert les yeux sur quoi ? Sur la possibilité justement de s'élever contre l'ordre établi ?
Karşı koymak mı?
Evet, yani her zaman sadece insanların düzgün, aydınlık duyguları yoktur.
Il n'y a pas que des sentiments clairs, acceptables chez les humains. Il y a également certains côtés qui sont beaucoup plus sombres, donc pour faire la part des choses.
Il y a aussi d'autres noms sur lesquels vous êtes passé peut-être un peu vite et qu'on connaît moins ici, qui sont des auteurs turcs que vous avez cités et dont vous dites qu'ils ont été importants aussi dans votre parcours de lecture. Est-ce que vous voulez bien revenir sur eux, nous dire qui ils sont et nous dire pourquoi est-ce que ça a été important pour vous de découvrir la littérature de votre pays ?
Aziz Nesin est un, comment dire, un humoriste en quelque sorte à l'échelle mondiale. C'est quelqu'un qui a très bien compris les points clés, les problèmes clés de la Turquie.
Et
c'est probablement la raison pour laquelle il a été honni par une partie de la population, d'où la tentative d'attentat.
Maalesef ki Türkiye'de bir yazar olarak
malheureusement
ziyade Türk hakkında Türk halkı Türkiye, aptaldır dediği için
au-delà d'être un écrivain connu reconnu il avait notamment dit que 60% du peuple turc était idiot.
Ondan sonra da çok eleştiri alınca
il
şey
a
demişti.
Reçu évidemment beaucoup de critiques.
Kırkı çok zekidir desem hiç kimse kızmazdı.
Il avait ajouté si j'avais dit que 40% du peuple turc est très intelligent, personne ne m'en aurait voulu.
Ama Aziz Nesin dışında da son dönemde de
mais en dehors d'Aziz Nesin,
Murat
Merteş, je suis d'avis que c'est l'un des plus grands écrivains des 15 dernières années en Turquie. Au niveau du montage de ses nouvelles, il a une place spéciale.
Yaşar Kemal o zaman çok iyi anlayamamıştım.
Que j'ai essayé de lire pendant mes années de collège, au début de mes années de lycée, et j'avais pas vraiment réussi à cette époque-là à bien comprendre le personnage, enfin l'écrivain qui était Yaşar Kemal.
Orhan Pamuk'un tabii ki dünya çapında da tanınan Orhan
Pamuk. Évidemment Orhan Pamuk, connu dans le monde entier.
Il a
beaucoup écrit sur Istanbul et sa façon, sa vision d'Istanbul, je dois le dire, m'a beaucoup influencé.
Vous évoquez au passage que vos deux parents étaient instituteurs, ils vous ont encouragé à lire.
Onlar okumanızı teşvik ettiler mi?
Çok fazla hani kitap oku diye bir teşvik oldu.
Non, pas vraiment. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit lis ceci ou lis cela. J'étais un gamin seul. Et je jouais pas tellement à l'extérieur. Et je lisais essentiellement tout ce qui pouvait se trouver à la maison. Puis il y avait eu autre chose. Mon père fut à l'époque quelqu'un qui lisait énormément. Mais avant que je naisse, il y a eu un coup d'état militaire en Turquie. J'aborde ce thème dans le premier volume du journal inquiet. Mon père, comme beaucoup d'autres intellectuels ou de gens de gauche l'avaient fait à l'époque, avait tout simplement été dans l'obligation de jeter à la poubelle beaucoup de livres qui pouvaient être considérés comme dangereux dans la mesure où il y avait un danger qu'il y ait une descente à la maison et que l'on trouve ces ouvrages. Et donc, je me suis borné à lire ce qui restait à la maison.
Ça veut dire aussi que, connaissant cette histoire, ou en tout cas si elle vous avait été transmise, Ersin Karamulut, vous saviez aussi que lire certains livres dans le pays où vous grandissiez pouvait porter préjudice, pouvait vous mettre en danger, qu'il y avait quelque chose dans les livres qui était porteur de pensées critiques. Immédiatement, vous deviez en être conscient enfant.
Entièrement. Mon père lisait des ouvrages d'un écrivain qui s'appelle Turhan Dursun. Une série d'ouvrages qui était très connu à l'époque en Turquie, s'appelant « Voici ce qu'est la religion ». Et en dehors du fait que c'était un écrivain, c'est quelqu'un qui connaissait très bien la religion de l'islam.
Bu yazarı okumanın Türkiye'de sakınca olabileceğini çok küçükken öğrendim çünkü babam
j'ai appris étant tout jeune qu'il était dangereux de lire les ouvrages de cet écrivain à l'époque en Turquie parce que mon père qui le lisait à la plage entourait le livre de papier journal de manière à ce que l'on ne voit pas la couverture.
Aslında gazete kağıdına sarıldığında kendini biraz daha ele veriyor. Yani sakıncalı bir şey okuduğunu anlıyorsunuz.
Ama... Mais en mettant du papier journal autour de la couverture d'un livre, ça devient à la rigueur beaucoup plus dangereux puisque les gens vont se dire, il y a, enfin, en quelque sorte, anguille sous roche.
Ama evet, bazı kitapları okumak sakıncalıdır bilgisi.
Mais Türkiye'de effectivement, çok erken öğrenebildiğiniz bir şey. C'est quelque chose que vous apprenez très tôt en Turquie, à savoir que la lecture de certains livres peut vous amener des problèmes.
Vous avez dit que ces dernières années, vous aviez moins lu. Qu'est-ce qui justifie, même si vous le racontez dans la bande dessinée, voilà, les années agitées qui viennent de s'écouler pour vous, mais ça veut dire quoi? Il n'y avait plus de place dans ces années agitées pour le temps de lecture?
Non, pas vraiment. J'adore toujours lire. C'est plutôt le problème de l'utilisation du temps. Comme beaucoup de personnes, peut-être, je n'arrive pas à me concentrer autant. On est maintenant dans un monde où c'est quasiment impossible pour une personne de ne pas regarder son téléphone portable pendant plus de 5 minutes.
Ama bu benim utandığım ve eskiye döndürüp tekrar okumak istiyorum.
Mais quelque part j'ai un peu honte. Donc j'aurais envie de revenir en arrière et de recommencer à être un bon lecteur.
Sadece edebiyat içinde değil. Aslında ben bir çizgi romancıyım.
Pas seulement pour la lecture. Éventuellement également pour la bande dessinée, car c'est mon métier, mais je ne lis pas assez de bande dessinée.
Ama bunun sebeplerinden bir tanesi de şu, şunu
söylemek
istiyorum.
Mais l'une des raisons est la suivante, je voulais l'ajouter.
Ben kendimi bir çizerden ziyade bir hikaye anlatıcısı olarak görmeyi tercih ediyorum.
Beaucoup plus qu'un dessinateur, je me vois comme un raconteur d'histoire.
Ve maalesef okuduğum her şeyi ya da izlediğim filmleri etnik açıdan çok fazla analiz ediyorum.
Les films que je vois ou ce que je lis, c'est un défaut que j'ai, je les analyse à chaque fois jusqu'au bout.
Bu da aynı zamanda roman ya da çizgi roman okuyuşumu çok zorlaştırdı çünkü problemleri çok hızlı görüyorum.
Beaucoup plus difficile la lecture d'autres ouvrages ou la vision d'autres films puisque je vois les endroits où ça cloche beaucoup plus rapidement.
Vous mentionnez parfois la manière dont la bande dessinée franco-belge, donc c'est assez large, aurait pu influencer votre travail. C'est vrai que jusqu'à maintenant, en dressant votre portrait, votre autoportrait de lecteur, vous n'avez pas mentionné de bande dessinée. À quel moment ça débarque dans votre vie, la bande dessinée, dans votre vie de lecteur? Quels auteurs ou autrices vous lisez? Pourquoi ça vous passionne et qu'est-ce que ça vous donne? Est-ce que c'est ça qui vous donne envie d'en faire?
Türkiye'de yurt dışında çok bilinmese de çok
en Turquie,
eski bir
dergisi. On ne le connaît pas, on ne le sait pas vraiment à l'étranger, mais il y a une tradition de la bande dessinée humoristique qui remonte à loin.
150 yıllık neredeyse.
150 ans.
Osmanlı döneminde yani modern
même
Türkiye'den
durant
çok
la période ottomane avant la Turquie moderne il y a des hebdomadaires qui existaient.
Ben de ilk olarak sanırım çizgili neşriyat okumaya babamın eve getirdiği bazı dergilerle başladım.
Alors j'ai commencé à lire des choses où il y avait des dessins grâce à des revues que mon père apportait à la maison.
Bunlar her zaman bizim sonradan çalıştığımız gibi haftalık mizah dergileri değil.
Il ne s'agissait pas d'hebdomadaires comme ça a été le cas dans ma vie professionnelle après.
Bazı karakterler vardı. Tarkan, Karamurat gibi.
Gazetelerde.
Gazetelerde ve ayrıca mecmua.
Alors il y avait à la fois dans les journaux des petits carrés, des petites bulles avec certains personnages comme Tarkan qui était très connu ou d'autres. Chaque jour, bon, l'histoire continuait de jour en jour. Et également, ces personnages qui étaient connus en Turquie à l'époque étaient également édités en revue à part entière.
Bu karakterler Türkiye'de çok sevilen karakterler. Filmleri var bir sürü.
Et il s'agissait de caractères de la bande dessinée qui étaient terriblement appréciés en Turquie. Il y avait beaucoup de films ont été tournés.
Ama tabii ki konuları bugün baktığınızda biraz gülünç olabilecek şeyler. Genelde
mais
bu
quand vous regardez les sujets, c'est un peu idiot. Enfin, ils sont c'est un peu bébête aujourd'hui avec le recul.
Türk ya da işte Müslüman savaşçı Avrupa'daki düşmanlarını yener.
En général, par exemple, le guerrier Türk musulman vient à bout de ses ennemis européens croisés, se marie avec la princesse d'en face, la princesse qui devient elle-même musulmane. Mais bon, c'est un peu bebet.
Ben de babamın büyük 50 santimlik bir cetvelini alıp bayağı bunları böyle okuyarak bir yandan savaşıyordum.
Alors moi tout en lisant ces bandes dessinées ou ces revues où figuraient ces bandes dessinées, je prenais à la fois simultanément à la main la règle de mon père qui faisait 50 cm qui me servait d'épée. Tout en lisant, je me battais.
Ardından gazetelerin
ensuite il y a eu des suppléments de bandes dessinées qui étaient dans les quotidiens nationaux, mais qui là il s'agissait de bandes dessinées d'auteurs étrangers.
Astérix, Tintin, bunların en bilinenleri.
Astérix, Tintin, évidemment, les plus connus.
Ama bu bana Türk halkının çizgi roman sevdası ile ilgili güzel bir şey söylüyor. Çünkü
mais,
demek ki gazeteler bunları
donc le peuple turc, en fin de compte, les lecteurs turcs adoraient ça, puisque chaque fois que les quotidiens éditaient des suppléments en bande dessinée, les ventes s'en trouvaient très fortement améliorées, à chaque fois.
Sadece gazeteler değil, bir de tabii ki
pas simplement les journaux, pas simplement les quotidiens.
Çizgi romanları çok seviliyordu.
Surtout les bandes dessinées italiennes étaient appréciées. Style western, etc. Cowboy.
Bunları gördüğümde, daha doğrusu bunun bir iş olduğunu anladığımda ben
j'ai compris un jour que c'était en même temps une profession. Ça m'a rendu fou.
Bunun bir takım insan, çünkü bir yaşa kadar anlamıyorsunuz bunun bir
jusqu'à
takım
certain âge, vous ne le comprenez pas, vous savez même pas que c'est fait par d'autres personnes réelles.
Onu anladığım andan itibaren bu işi yapmak istedim.
Et à partir du moment où j'en ai pris conscience, je me suis dit c'est ce que je vais faire.
Ardından da ortaokul yıllarımda
ensuite,
bir arkadaşımın vesilesiyle
pendant mes années de collège grâce à un camarade
mizah dergilerin haftalık ve aylık mizah dergilerini tekrar keşfettim.
J'ai redécouvert les revues hebdomadaires ou mensuelles qui n'étaient consacrées qu'à ça.
Ve
bande dessinée humoristique.
Beni asıl besleyen çizgili yayınlar bütün diğer hepsinden çok bu dergiler oldu.
Et c'est surtout ces revues-là qui ont en quelque sorte alimenté mon côté créatif.
Çünkü 90'lı yıllarda çok hala çok az kanal vardı. Özel kanallar çıkmış olmasına rağmen.
Ah, oui, dans les années 90, il y avait très peu de chaînes de télévision. Les chaînes privées avaient vu le jour, mais à peine.
Televizyonlarda göremeyeceğiniz bir sürü konuyu
beaucoup
bu dergilerde görebiliyordunuz.
De sujets qui n'étaient absolument pas abordés à la TV, à la télévision, ça me permettait de les découvrir au travers de ces revues.
Mesela bana kalırsa milliyetçilik, dozunda olmayan bir milliyetçilik bana kalırsa bir hastalıktır.
D'après moi, un nationalisme qui n'est pas correctement dosé, donc à minima, est une maladie.
Ya da cinsellikle ilgili bir sürü şeyi bu dergilerden öğrendim aslında.
Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses au travers de ces revues, le point que j'ai abordé, ou alors beaucoup d'autres sujets en rapport par exemple avec la sexualité.
En tout cas, ces revues-là, notamment hebdomadaires, ont une place très importante dans le récit que vous faites de votre propre parcours. Dans ce journal inquiet d'Istanbul, on va y venir, on va parler de votre bande dessinée. Juste après cette reprise du chant contestataire italien Bella Ciao par un groupe qui s'appelle Yo Room, deux de ces musiciens sont morts après de grandes grèves de la faim qui voulaient protester contre l'interdiction de leurs concerts déclarés en 2016. Cette version de Bella Ciao avait retenti dans plusieurs minarets d'Izmir, c'était en 2020, l'année de leur disparition. Et c'était le fait d'un piratage du système d'appel à la prière. Bella Ciao, sur France Culture, par Yo Room.
İşte bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında sen ey partizan beni de götür Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa eğer ölürsem ben partizanca Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma güneş doğacak açacak çiçek Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek
France Culture Le Book Club Marie Richeux.
En 2017, vous faites, Ersin Karabulut, 17 heures de vol entre Istanbul et Los Angeles. Vous prévoyez de demander un visa de 6 mois. Et au moment de vous en expliquer à la douane américaine, pas si facile à convaincre, les mots vous manquent et ce sont vos dessins, découverts par le policier sur Internet, qui sont votre véritable passeport. Il se trouve que les douaniers les trouvent pas mal. La bande dessinée au programme de ce book club aujourd'hui est une façon de répondre, après coup, à ce douanier américain en retrouvant le calme et les détails et les souvenirs, une façon de lui raconter, de nous raconter tout ce qui vous a tellement secoué ces années-là et vous a parfois empêché de dessiner tant votre main était tremblante. Le journal raconte 10 ans de votre vie, 2007-2017, dans un incessant aller-retour avec le passé. On vous y croise ado, enfant, autant que jeune adulte dessinateur, avec d'autres, entre déconnade, résistance et travail acharné. Journal inquiet d'Istanbul, tome 2, apparu aux éditions d'Argo, dans la traduction vers le français de Yiğit Bener et c'est Kerem Topuz qui est l'interprète de notre entretien aujourd'hui. Alors partons du titre Journal inquiet, deux mots intéressants pour parler de la forme que prend ce livre-là. Journal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous traversiez cette décennie 2007-2017, vous preniez des notes, vous saviez que vous alliez tenir mémoire de cette période si agitée pour vous?
En réalité, à partir de 2001, j'ai commencé à dessiner de courtes histoires autobiographiques.
Aslında bu kitapta gördüğünüz dile anlatım dilini
ce style que vous avez vu dans les deux premiers tomes enfin dans le tome 1 dans le tome 2 c'est un style que j'ai depuis environ une vingtaine d'années. Que je maîtrise.
Ama bu kitapta anlattığım olaylar aslında özel olarak not almamı gerektirmeyecek kadar
mais les sujets que j'ai traités dans ces deux tomes ne sont pas des choses qui avaient nécessité une prise de notes tellement ces événements étaient importants.
2016 yılında sanırım ilk olarak Fransa'da yayınlanmaya başladığımda.
2016, sauf erreur, quand j'ai commencé à être publié, édité en France.
Yavaş yavaş buradaki festivallere, çizgi festivallerine gelmeye başladım.
J'ai commencé à participer au festival en France de bande dessinée.
Ve bana insanlar hep aynı soruyu soruyorlar.
Et les gens me posaient toujours la même question.
Bir çizer olmak, özellikle politik bir dergi çıkartmak nasıl bir şey?
Ça ressemble à quoi de devenir un auteur politique en Turquie?
İşte o zamanlar herhalde belki böyle bir kitap serisi yapmalıyım diye düşünmeye başladım.
Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je travaille sur un ouvrage concernant cette période.
Il y a quelque chose dans ce titre-là qui est le mot « inquiet ». Et en fait, ce mot « inquiet » ne renvoie pas que, si j'ai bien compris, à l'aspect politique justement de votre travail, mais aussi à l'inquiétude dans laquelle vous êtes dans ces jeunes années, à votre incertitude, à une forme d'inquiétude existentielle avant même qu'elle ne soit juste concrète, parce que c'était galère, de plus que galère de publier des dessins. Pour vous, c'est quoi ce mot-là « inquiet » ?
Yani galiba buradaki endişe bana babamın bir mirası.
Alors le mot inquiet et l'inquiétude dans le titre de ces deux volumes, je pense que je l'ai hérité de mon père.
O da endişeli birisiydi her zaman.
C'était également quelqu'un de très inquiet. Donc c'est passé sur moi. Comment on va vivre, avec de quoi on va vivre? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie en faisant de l'art? Si on va dans les centres-villes, est-ce qu'ils vont nous accepter ou totalement nous rejeter?
Galiba biraz Türkiye'de çok fazla kendimize ait hissedemememizle ilgili bir durum. Babam için de söylüyorum, kendim için de söylüyorum.
Ne pas se sentir appartenir réellement au pays. Ne pas avoir trouvé sa place, c'était valable pour moi et également valable pour mon père.
Çünkü hepimiz insan canlısı olarak bir kabileye ihtiyaç duyuyoruz.
En tant qu'humain, on a besoin de faire partie d'un clan, d'une tribu.
Ama ben gün geçtikçe bir kabile bulmakta zorlandım.
Au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'arrivais pas à trouver un clan ou m'insérer.
Bulduğum en iyi familia, kabile, mizah terkisi çizerleri oldu.
La meilleure famille que j'avais pu trouver en fin de compte était ceux qui justement publiaient, sortaient ces revues humoristiques.
Ve maalesef onların da hepsi çok endişeli tiplerdiler.
Et malheureusement, la plupart de ceux qui publiaient, qui dessinaient pour ces revues étaient tous sans exception terriblement inquiets.
Türkiye'de endişeli olmadan bu işi yapmak pek mümkün değil galiba.
Je pense que c'est quasiment impossible en Turquie de faire d'exercer cette profession sans porter en soi en permanence une inquiétude.
Il y a quelque chose qui est en effet très frappant dans votre manière de parler du collectif, donc ces jeunes gens qui se réunissent pour fabriquer des journaux. Une des grandes aventure que vous racontez, c'est la création de cet hebdomadaire d'humour Insomnia qu'on va écouter un extrait de votre bande dessinée.
Un ancien de Penguin avait ouï dire qu'on allait lancer un nouveau mag. Il dit : je peux tout organiser, l'achat de papier, l'impression, la distribution, la compta, les impôts, les salaires. Pas de soucis. J'ai des années d'expérience. Vous n'aurez qu'à dessiner et à écrire. Je m'occupe du reste. Ça semblait être la proposition la plus sensée du monde. Nous l'avons tout de suite engagé comme directeur. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Le nom du magazine. Après une multitude de suggestions loufoques, nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. Ukyusuz. Insomniac. Car nous étions des noctambules. Et puis, ça nous permettait de dire des choses très cool dans les interviews, comme « Comment dormir paisiblement quand il y a tant d'injustices ?» Nous avons vraiment bichonné notre premier numéro. Et puis, nous sommes allés tous ensemble à l'imprimerie. Quelques heures plus tard, nous avions notre premier numéro entre les mains. Nous étions sans doute aussi heureux que des parents assistant à la naissance de leur bébé. Ensuite, les exemplaires emballés sont partis en camion pour être distribués dans tout le pays. Première étape réussie. Avec nos cœurs qui battaient la chamade, le premier numéro d'Ukyusuz a trouvé sa place dans les kiosques le 7 septembre 2007. Au bout de 3 semaines, nous étions déjà devenus l'hebdo le plus vendu en Turquie.
Alors bien sûr, dans ce journal inquiet d'Istanbul, Ersin Karabulut, il y a les difficultés, il y a les galères d'argent au début, il y a les incertitudes, la difficulté aussi d'embrasser cette carrière délicate et difficile, il y a la politique, il y a la censure, il y a les manifs, on y viendra, mais il y a aussi l'aventure incroyable que c'est de créer un journal avec des gars talentueux, loufoques et drôles. Qu'est-ce que vous gardez du lancement de cet hebdomadaire humoristique Insomniac ? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir précieux ?
Alors, le temps a passé, donc c'est peut-être dur pour moi de m'en souvenir, d'en choisir un ou deux.
Ama gerçekten de satacak mı satmayacak mı hiçbir fikrimiz yoktu bu dergi.
On avait absolument aucune idée est-ce que ça va se vendre ou non?
Fakat dergi çıkartan 6 kişi de o dönem çok popüler çizerlerdik.
Mais nous étions tous les 6 au sein de cette revue des dessinateurs réellement populaires.
Sadece şöyle bir duygu yaşadığımızı hatırlıyorum. Tamam,
je me souviens de ce sentiment-là. Nous savons dessiner.
Fakat kesinlikle bizim zannettiğimizden çok daha karmaşık bir olay olmalı bu dergi çıkartmak.
Mais cette revue est probablement quelque chose de beaucoup plus compliqué à réaliser.
Ama bir şekilde kör topal nasıl?
Mais d'une façon, en avançant, en tâtonnant.
Sonradan bizi kazıklayacak genel müdürümüzü de bulmamızla işler hızlandı.
Nous avons trouvé, fini par trouver le directeur de la revue qui ensuite nous a arnaqué d'ailleurs. Mais les choses se sont accélérées.
Ama her türlü iş biraz da hata yaparak öğreniliyor.
Mais chaque aventure amène avec elle des faux pas.
Et vous ne racontez par exemple dans ce journal inquiet d'Istanbul la manière dont vous choisissez collectivement la une, comment on vote pour une, quelles étaient les discussions entre vous, quels étaient les débats pendant un temps où petit à petit la Turquie connaissait de plus en plus d'agitation et vous marquez aussi l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, les manifestations et tout ce que ça va rencontrer, cette aventure éditoriale comme réalité politique.
Zaten küçüklüğümüzden alışkın olduğumuz de toute façon, bir dergi formatı olduğu için.
Bon, on était habitué à ce format de revue depuis qu'on était tout petit.
Ne tarz şeyler yapabileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz vardı.
Nous avions déjà des idées sur ce que, en tant que lecteur avant, nous avions déjà des idées précises sur ce que nous pouvions ou que nous devions faire.
Türk halkının ya da okurlarımızın neleri seveceği ya da neler sevmeyeceği.
Nous avions des idées sur ce qu'aime le lecteur ou ce qu'il n'aime pas.
Sadece olaylar, yaşanan olaylar.
La seule chose, les événements que nous avons vécu.
Nasıl yaklaşacağımız konusunda artık çok zorlandığımız bir noktaya gelmiştik.
Les approcher. Nous avions commencé une période où ça devenait de plus en plus difficile de choisir une approche convenant. Aux événements.
Çünkü bir noktaya kadar bir inandığınız bir devlet var, kurumlar var.
Il y a l'État d'un côté, vous êtes supposé croire en l'État, il y a des institutions, il y a le droit.
Ama yavaş yavaş Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de
dans la Turquie dirigée par Recep Tayyip Erdoğan, tout a commencé à disparaître, tout a commencé à s'amalgamer.
Özellikle ilk kitabın sonunda çizdiğim bu hayvan fin, şeklindeki Tayyip Erdoğan kapağından sonra.
À la fin du premier volume, Erdoğan avait été caricaturé sous la forme à l'époque d'un animal.
Gelen tepkilerden anlamıştık ki
il y avait eu de telles réactions négatives que nous avions compris à partir de ce moment-là qu'il fallait dorénavant en Turquie que nous fassions beaucoup plus attention à ce que nous dessinions par rapport à ce qu'on pouvait faire avant.
Her hafta masaya topluca oturuyorduk.
Chaque semaine on se mettait tous ensemble à table, autour d'une table, on prenait les journaux.
Hep beraber etkili bir kapak yapmaya çalışıyorduk.
De façon à décider de la d'une une qui est du poids.
Sadece kapak politik olmuyor bu arada. İçeride bazı sayfalar.
C'est pas simplement la une qui était politique, il y avait à l'intérieur également un grand nombre de caricatures politiques.
Ama bugün baktığımızda o günlerde yaptığımız mais kapaklara çok hayret ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum.
Je m'étonne en regardant ce que nous étions capables de faire à l'époque. Ce ne serait plus possible aujourd'hui.
Şu an yapılması mümkün değil.
Impossible aujourd'hui.
Vous racontez aussi, Ersin Kala, que vous avez beaucoup évolué politiquement, c'est-à-dire que vous racontez comment vous participez à des manifestations, vous y entrez inquiet, voire terrorisé, et puis vous apprenez à slalomer entre les bombes lacrymogènes, vous sortez de manif en vous disant bah finalement je suis pas mort et ça m'a fait du bien de m'élever et de résister contre un régime que je ne cautionne pas. Il y a aussi votre évolution politique qui est racontée dans ce journal 2007-2017. Pas que votre position de dessinateur humoristique politique, il y a aussi vous en tant que citoyen.
Absolument, ça va être une trilogie d'ailleurs, le journal
inquiet.
C'est pas simplement une histoire chronologique, chaque volume a sa propre thématique.
Ve ikinci kitapta aslında genç bir çizerin o zamanlara
inanılmaz. Dans le second volume, il est question d'un jeune auteur.
Sadece bir dergi yapması ve dergi editörü olması değil.
Il n'édite pas simplement une revue. Et en même temps, sa conscience politique mûrit.
Ama politik bir bilinç geliştirmesi derken...
Mais quand je parle d'une conscience, de l'évolution d'une conscience politique, j'essaye de le dire en y faisant attention.
Çünkü aslında bu kitabı okuyan insanların çoğunun
politik olarak le lire,
benim seviyemde olduğunu da tahmin ediyorum.
Je pense que beaucoup ont le même niveau, la même approche de conscience politique que la mienne.
Kitabın arka metnini yazarken editörümle beraber
çok dikkat ettim. En écrivant le petit résumé en quatrième de couverture en compagnie de mon éditeur, on a surtout fait attention à ça.
Çünkü ben bir okur olarak kitapçıda gezerken baktığımda
quand hani,
sadece
lecteur,
politik içerikli bir şey gördüğümde
dans okuma une konusunda librairie,
direnç gösterebilirim.
Et que je vois quelque chose qui est essentiellement politique, je peux opposer une certaine résistance intérieure à faire l'acquisition de cet ouvrage.
Ama bence ilk olarak Fransa'da ve tabii ki çevrilen diğer ülkelerde
en France et dans d'autres pays par la suite, ce que j'essaye de transmettre au lecteur est la chose suivante.
Politika hayattan çok farklı ve uzak bir şey değil.
La politique n'est pas quelque chose de terriblement éloigné, de terriblement différent de la vie en elle-même.
Nispeten medeni kabul edeceğimiz tırnak içinde söylüyorum. Batı dünyasındaki ülkelerde...
Dans les pays civilisés d'Occident...
Benim gördüğüm kadarıyla genç insanlar...
Pour autant...
Politikayı hayattan ayrı bir şey görüyorlar. Orada bir devlet var, işleyen bazı kurallar var.
Beaucoup de gens pensent que la politique est différente, a une place différente. Il y a un état, il y a des règles qui existent.
Problemler olabilir ama onlar kendi aralarında çözerler. Benim dışımda bir şey.
Il peut y avoir des soucis, mais ces soucis trouveront une solution. Solution, se dit le lecteur potentiel, en dehors de moi, puisqu'il y a tout cela qui existe, tout un contexte qui existe, qui sert à résoudre les problèmes.
Türkiye'de de böyleydi. Benim jenerasyonum ve öncesindeki bir jenerasyon içinde böyleydi.
En Turquie, c'était exactement la même chose dans ma jeunesse ou pour la génération qui m'a précédé.
Ama bir noktada artık devlet başkanı şunu söylüyor.
Mais à partir d'un certain point,
farkındayım, anayasayı çiğniyorum.
Le chef de l'État nous dit, je suis tout à fait conscient que je ne respecte pas les règles, j'en ai rien à cirer de la Constitution.
Buradaki parktaki ağaçları keseceğim ve bir alışveriş merkezi yapacağım.
Je vais couper les arbres qui se trouvent sur cette place, la place Taksi, mais en faire une sorte de centre commercial.
O noktada ne yapacaksınız?
Qu'allez-vous faire à ce moment-là, à partir de ce moment-là?
Orada artık hayatınıza dokunuyor. Yani o bir böyle boğazınızı sıkmaya gelen bir
el var. Touche directement votre vie. C'est comme si une main s'approchait petit à petit de votre cou.
Dolayısıyla o ilk protestolara katılışımı çizmek benim için önemliydi. Hiç
donc c'était important que je dessine justement ces événements, ces protestations dans le premier volume.
Zaten o bölümün sonunda da aslında dayak yemekten et artık korkmayan birisi var.
À la fin de cet épisode, en quelque sorte, il y a quelqu'un qui n'a plus peur de se faire tabasser.
Çünkü gerçekten de eğer haklı olduğunuzdan eminseniz dayak yemek o kadar da acıtmıyor.
Si vous pensez que vous avez vraiment raison jusqu'au fond, le fait de vous faire battre ne vous fait plus mal.
J'aimerais qu'on écoute la voix de notre auditrice Hélène. Elle a lu votre bande dessinée, Ersin Karabulut, et elle a été marquée par un épisode que vous racontez. Vous publiez donc des histoires, des lettres, et un jour vous vous adressez aux électeurs et aux électrices d'Erdogan dans le journal, et vous racontez dans votre bande dessinée. Elle vous interroge sur cet épisode.
Bonjour le Book Club, bonjour Ersin Karabulut. J'ai suivi avec beaucoup d'appréhension vos premiers doutes, votre confrontation avec les premiers signes du régime totalitaire et vos premières révoltes. Et j'ai été touchée par vos questionnements et notamment par le passage où vous écrivez aux électeurs d'Erdogan. Vous êtes dans l'incompréhension et en même temps, vous avez envie d'échanger, de comprendre. Vous avez envie d'être tolérant, bienveillant. Est-ce que ça a été difficile pour vous de conjuguer dans les mots et dans les dessins à la fois cette colère, cette révolte et la volonté de faire toujours appel à la tolérance et de ne pas céder à la haine?
Merci beaucoup Hélène pour cette question. Ersin Karabulut, le fait de continuer à s'adresser à ces électeurs et électrices d'Erdogan que vous ne comprenez pas, à voir contre qui vous vous opposez, qu'est-ce que ça mobilisait chez vous, presque en tant qu'auteur? C'est ça qu'elle vous demande, Hélène.
Soruyu herkesin anlaması için neyden bahsettiğini belki biraz daha açıklamam gerekir insanların.
Faudrait que je vous explique un peu plus ce dont il était question.
Politik içerikli işler yapıyorduk dergide.
On faisait des tas de choses politiques au sein de la revue.
Artık bu hiç tanımadığım, hayatımda olmayan Erdoğan'ı destekleyen insanlara ulaşmak istedim.
Çünkü mais j'ai voulu m'adresser aux électeurs, à ceux qui soutenaient Erdoğan, que je ne connaissais pas.
Ve bir yazı yazdım. Aslında bu bir mektuptu.
Donc c'était une lettre au départ. J'ai préparé une lettre.
Kabaca şunu söylüyordum. Problemin nedir benimle? Çünkü
o je disais, grosso modo, en m'adressant à ces électeurs d'Erdoğan, quel est votre problème avec moi? Parce que à l'époque, cette partie de l'électorat devenait de plus en plus agressive vis-à-vis de ceux qu'elle considérait comme étant laïcs.
Mais bu yazıyı da gerçekten de didaktik bir şekilde, böyle yapmamalısın amacıyla değil, gerçekten de...
C'était pas un texte didactique. C'était essentiellement pour avoir un retour, pour avoir leur réaction.
Çünkü laik kesimin medyasına baktığınızda da bu insanlar sadece cahiller ve Erdoğan'a oy veriyor.
Car dans la presse laïque, ces gens-là ne sont que des ignorants, des idiots.
Ama bunun arkasında insani sebepler olmalı. Bunu anlamamız gerekiyor.
Je me disais, il doit y avoir d'autres raisons derrière ça. Il faudrait que l'on puisse comprendre ce qu'il y a derrière.
Kitapta da bahsettiğim gibi o hafta çok fazla reaksiyon aldım ama bir tanesi çok ilginçti.
J'ai eu énormément de réactions. J'en parle dans le premier volume. Il y en a une qui était intéressante.
Kısacası şunu söylüyordu.
Qui disait en gros?
Sen eğitimli gibisin. Ülkenin daha
je pense que tu as reçu une bonne éducation, tu fais partie plus ou moins de l'élite, ce qui n'était absolument pas le cas en ce qui me concerne.
Kenar mahalleden gelmiş birisiyim ben.
Car on vivait dans une partie vraiment reculée de la ville.
Ama bir dergide yazı yazan birisi olunca öyle gözükmüşüm herhalde.
Mais dans la mesure où je faisais partie d'un staff éditorial d'une revue importante, bon, on pensait que j'étais de l'élite.
Ve bana e-mail atan kişi şöyle söylemişti.
Celui qui m'avait envoyé donc un courriel m'avait dit
eğitimliye benziyorsun, büyük ihtimal bir kardeşin
var. Tu as dû recevoir une bonne éducation, tu dois avoir au maximum un seul frère ou sœur.
Büyük ihtimal kız arkadaşların oluyor.
Tu as probablement des petits amis, tout va bien dans ta vie.
Ve benim tarafıma bakarsak 9 tane kardeşim var.
En ce qui me concerne, j'ai 9 frères et sœurs.
Hayatımda bir kadının eline bile dokunmadım.
J'ai même pas réussi à toucher la main d'une femme jusqu'à maintenant.
Ve ben bu ülkede mutlu değilim.
Et je ne suis pas heureux dans ce pays.
Ve bence senin de mutlu olman doğru değil.
Et je pense, disait-il pour finir, je pense que tu ne devrais pas avoir le droit d'être heureux toi-même.
Ve ben bugün bile buna inanıyorum. Bu kişiyi mutlu etmeden ben mutlu olamam ülkemde.
Et c'est vrai que c'est un avis que je partage. Je ne peux pas me considérer comme un être heureux tant que cette personne ne sera pas heureuse non plus.
O yüzden bence karşı görüş diye düşündüğümüz bir sürü şeyin aslında temeline...
Beaucoup de choses que nous considérons comme des points de vue irréconciliables, il faut à chaque fois essayer d'en dénicher un peu les causes.
Il y a quelque chose aussi qui se passe pendant cette période 2007-2017, c'est l'attentat et l'assassinat de plusieurs membres de la rédaction de Charlie Hebdo ici en France. Dans un premier temps, dans votre bonne décidée, Ersin Karabulut, vous regardez la situation des caricaturistes, des dessinateurs, autrices en France, à l'étranger, comme étant bien meilleure que la vôtre. Et puis survient cette violence extrême et la mort de ces membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Vous racontez comment ça vous bouge aussi? Est-ce que ça fait partie des éléments qui, justement, en fait trembler votre main jusqu'à ce que vous ne puissiez plus dessiner?
İnsanların ikonlar için neler yapabileceği konusunda
qu'est-ce que les gens
zaten biraz bilgiliydik.
Peuvent faire pour des icônes.
Zaten konuşmanın başında bahsettiğim Aziz Nesin, Sivas katliamı.
Comme je l'ai dit au début, Aziz Nesin, qu'on a essayé de tuer.
O gün orada,
en le faisant brûler vif.
33 tane değerli yazar ve şair yakılarak öldürüldü.
Et lors de cet événement, où Aziz Nesin a échappé à la mort, 33 intellectuels, chanteurs, chanteuses, poètes turcs ont brûlé vif dans l'hôtel où se trouvait Aziz Nesin.
Dolayısıyla o zaman 12 yaşındaydım ve
à l'époque j'avais 12 ans.
İnsanların ikonlar için başka insanlara neler yapabileceğini şahit oldum.
Et donc j'étais directement témoin de ce que d'autres personnes pouvaient faire sur des personnes que nous considérions à l'époque comme des icônes.
Charlie Hebdo olayında bizi şok eden şey bir Fransa'da da olabilir.
De Charlie Hebdo, ce qui nous a vraiment choqué, c'est que ce type d'événement puisse également se produire en France.
Bu kurtulması çok zor olan bir manyaklık diye düşündüğümüzü hatırlıyorum. Nereye gidersek gidelim bu istediğimiz gibi kendimizi ifade edemeyeceğiz. Her zaman
on se disait que
öldürmeye
on se disait que ce serait de plus en plus difficile de pouvoir nous exprimer librement quel que soit l'endroit où on se trouve et qu'il y aurait toujours des personnes prêtes à en vouloir à notre vie.
Ve kalbimi kıran en büyük olaylardan birisidir.
C'est l'un des événements qui m'a vraiment blessé profondément.
Au début de la bande dessinée, on vous voit à la douane américaine demander un visa pour y séjourner pendant 6 mois. Et puis à la fin de cette bande dessinée se repose la question de l'exil. Comment continuer à vivre? Comment continuer à vous exprimer? Comment continuer à travailler? Et puis vous avez aussi mentionné, Ersin Karabulut, votre difficulté de faire corps avec votre pays, de vous sentir bien dans votre propre pays. Comment cette question aujourd'hui est réglée pour vous? Ou si elle n'est pas réglée, où en êtes-vous par rapport à cela?
Kesinlikle çözemedim.
Toujours pas réussi.
Çok spoiler vermeden anlatmam lazım. Çünkü bu üçüncü kitabın hikayesi olacak aslında.
Sans vraiment dévoiler ce qui va devenir le troisième volume.
Ama
je veux dire la chose suivante. Les choses suivantes.
Türkiye benim doğup büyüdüğüm canım ülkem.
La Turquie est un pays que j'adore, où je suis né, où j'ai grandi.
Ne olursa olsun hep çok seveceğim.
Quel que soit la situation.
Ama Türkiye galiba beni benim onu sevdiğim kadar sevmiyor.
Mais j'ai l'impression que la Turquie ne m'aime pas autant que moi je l'aime.
Aramızda tam bitirilememiş bir ilişki var.
Il y a une relation et nous ne sommes pas vraiment allés au bout de cette relation entre moi et mon pays.
Eski, ayrıldığım ama bir türlü ayrılamadığım eski sevgilim gibi stalkluyorum.
Ça me fait penser à mon ancien amour que j'ai quitté, mais sans vraiment la quitter.
2 yıla yakın zamandır Fransa'dayım, Paris'te yaşıyorum.
Je vis depuis environ 2 ans en France, à Paris.
Ondan önce 2,5 yıl kadar Los Angeles'ta yaşadım.
Avant 2 ans et demi à Los Angeles.
Ama Hollywood işaretinin altlarında uyandığım sabahlarda bile
mais, sous les lettres
haberleri izliyordum.
D'Hollywood en bas desquels je me réveillais. Tous les matins, je m'intéressais surtout à ce qui se passait, à ce qui pouvait bien se passer en Turquie.
Bazen Paris'te olmak da zor oluyor.
Parfois,
dil bilmeyince.
Même être à Paris est dur dans la mesure où je maîtrise pas la langue.
Ülkemi özlüyorum. Bir tarafım hep
pays
oraya geri dönmemi istiyor.
Me manque, il y a une partie de moi qui veut toujours faire un retour au pays.
Böyle anlarda maalesef sokak röportajlarını açıyorum.
Dans ces moments-là,
sokak röportajları.
Sur internet, j'ouvre une section qui marche très bien en ce moment en Turquie, les reportages de rue, ou des reportages faits avec des individus lambda, en pleine rue.
Kendimi oradaki kafa karışıklığından uzak tutmak ve sağlıklı kalmak için mecbur kalıyorum. Buna şahit olmuyor. Çünkü insanların kafası son derece karışık.
De ces turbulences, à la rigueur, m'arrange quelque part, car l'esprit des gens n'est vraiment pas tranquille en ce moment en Turquie.
Ce qui rejoint le titre de ces tomes, Journal inquiet, et cette permanente inquiétude, Ersin Karabulut. On l'a peu dit, mais il y a beaucoup d'allers-retours avec votre passé. Vous racontez des épisodes de votre enfance, des épisodes de votre adolescence, des moments dans un quartier où vous avez grandi, ou dans des collèges ou lycées où vous avez reçu une éducation, notamment religieuse, contre laquelle vous êtes ensuite retourné. Il y a une dimension comme ça exploratrice, comme s'il y avait une sorte de, je trouve pas le mot, mais d'introspection, voilà. Est-ce que vous en ressortez à chaque fois comme enrichi d'une compréhension sur vous-même ?
Benim hayalimdeki Türkiye ve hatta dünyada herkes tek tek
la Turquie, enfin d'après ce que je pense, la Turquie dans le monde, dans tous les pays, chacun devrait individuellement faire une thérapie.
Bence gerçek bir devrim ancak içsel bir devrim olabilir.
La seule vraie révolution serait une révolution introspective.
Çünkü insanlar aslında kendilerine bakma lüksleri ve zamanları olmuyor.
Car les gens, à cause du travail, d'autres choses, n'ont pas le temps de voir en eux-mêmes, de voir où ils en sont.
Farkında bile olmadığımız milyon tane karanlık yanımız var.
Nous avons peut-être des millions de côtés sombres en nous-mêmes que nous ignorons.
Türkiye'de buna çok şahit oldum. Özellikle
j'ai été témoin de cela un grand nombre de fois en Turquie.
Tabir eden bir sürü insan aslında
beaucoup de gens qui pensent être progressistes sont en réalité très conservatrices.
Aynı şeyi az önceki Charlie Hebdo konusuyla bağlayarak da söyleyebilirim.
En rapport avec Charlie Hebdo dont on a parlé tout à l'heure.
Çünkü bana insanlar soruyorlar.
Les gens me le demandent tout le temps.
Allez-y, oui.
Devant.
Non, je faisais signe qu'il faut qu'on termine cette conversation, mais terminez votre phrase.
Ah, ok.
Charlie Hebdo.
Şunu söylemeye çalışıyorum.
J'essaie de dire la chose suivante.
Konuşma özgürlüğüne vurgu yapıyorlar.
Me pose des questions sur la liberté d'expression.
Ben de bunu kesinlikle savunuyorum.
Évidemment, je la défends.
Şundan da eminim.
Mais je suis sûr d'une chose.
Bugün Charlie Hebdo'nun her aujourd'hui, istediğini söyleyebilmesi gerektiğini söyleyen bir sürü insan kendi değerleriyle ilgili bir şey söylendiğinde kötü bir şey söylendi.
Des gens qui soutiennent Charlie Hebdo jusqu'au bout, dès qu'il s'agit de leurs propres valeurs, d'un seul coup peuvent devenir très terriblement conservatrices.
Et c'est une conversation qu'il faudra reprendre. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Ah là là, je dois gérer les horloges évidemment pour retomber à peu près sur nos pattes comme chaque mercredi. L'heure est venue de parler littérature jeunesse à ce micro avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Alors, aujourd'hui, vous nous parlez d'un album pour enfants, bien sûr, dès 4-5 ans, qui explore la vaste question de notre rapport au temps. C'est le cas.
Oui, absolument, Marie, justement. Un jour, il y a longtemps, enfant, j'ai appris à l'école que la Terre s'était formée, m'a-t-on dit, il y a plusieurs milliards d'années. Je me souviens de manière à la fois diffuse et assez nette du vertige procuré par cette idée et des questions qu'elle ouvrait. Si la Terre s'est formée il y a plusieurs milliards d'années, qu'y avait-il alors avant la Terre ? Petite, je trouvais que 40 ans, c'était déjà beaucoup, 100 ans, n'en parlons pas, alors 1000, 100 000, 1 milliard, pure abstraction, des mots loin de toute appréhension possible. Je vous parle aujourd'hui d'un album dont la lecture m'a mis en contact avec ce vertige-là. Il s'appelle « Ce qui sera » et signé de l'autrice suisse Johanna Scheible et apparu aux éditions de La Partie dans une traduction vers le français signée Jean-Baptiste Courceau.
Et alors, de quelle façon y avez-vous retrouvé ce vertige, Mathilde ?
L'album s'ouvre sur l'image du Big Bang, sur fond d'un décor noir peint à l'acrylique, d'où jaillissent comme des blocs de roche et de la lave en fusion. Ce texte, il y a des milliards d'années, la Terre se formait. On tourne la page, trois silhouettes d'animaux qui pourraient bien être des ptérodactyles s'envolent dans un beau ciel mauve. Il y a des millions d'années, les dinosaures habitaient notre planète. Page suivante, il y a des centaines de milliers d'années, les peuples migraient. Apparaissent alors les premières silhouettes humaines du décor, toutes petites au loin, sur fond d'immenses montagnes rocheuses. Il y a 5000 ans, on a construit des choses immenses et ce sont encore de petites silhouettes qui bâtissent les pyramides égyptiennes. Chaque nouvelle double page est d'un format un peu plus petit que la précédente. L'échelle et le cadre se rapprochent aussi progressivement de la taille humaine. Il y a 10 ans, le paysage avait une autre apparence. Il y a 1 an, les oiseaux rejoignaient le sud. Il y a 1 mois, c'était encore l'automne. Sur l'image d'un parc parcouru d'enfants, on réalise qu'on a désormais basculé dans le temps de quelqu'un. Il y a une semaine, la ville était en effervescence. Il y a une heure, le soleil s'est couché. Il y a une minute, on a éteint la lumière et l'on découvre la vue d'une porte entrouverte, laissant percer un ray de lumière vers un lit dans la pénombre de ce que l'on devine être une chambre d'enfant. Imperceptiblement, délicatement, nous sommes passés d'un point de vue général sur l'histoire de la Terre à celui d'un enfant sur le point de s'endormir. Par le jeu des découpes, nous avons traversé, par un mouvement de travelling avant en quelque sorte, plusieurs milliards d'années de création. Nous arrivons à la page centrale du livre, la plus petite. Un ciel de nuit percé du mouvement d'une étoile filante et ce texte « Maintenant, fais un vœu ». S'ouvre alors la deuxième partie du livre. Dans un mouvement inverse de dézoom, chaque page étant cette fois-ci plus grande que la précédente, nous allons avancer vers l'avenir. Et nous serons résolument cette fois-là à l'échelle de la vie de cet enfant, tel qu'il peut la projeter depuis son présent, enfant à qui le livre s'adresse désormais. Quand te lèveras-tu demain? Que se passera-t-il ce week-end? Que découvriras-tu quand tu seras adulte? Qu'est-ce qui te marquera à jamais? Sur fond d'un paysage de ville illuminé la nuit, au loin, cette question pour finir. Quel est ton vœu le plus cher pour l'avenir? Depuis le vertige d'une sensation du temps et de l'espace, l'univers est immense et moi je suis minuscule, l'album nous a fait basculer dans une projection vers un futur et l'espoir dont ce futur reste malgré tout porteur. Autrement dit, ce livre offre une très belle proposition plastique sur la vaste question philosophique de la perception du temps. Ce qui est très beau, c'est que la spatialisation proposée est en mouvement, comme si était affirmée en creux l'idée que la durée est avant tout changement. Je repensais donc, le découvrant cet album, à ce fameux texte du philosophe Henri Bergson, extrait de son livre « La perception du changement ». Petite citation, Marie ?
Bien sûr, évidemment, allons-y.
Allez, on y va. Qu'il s'agisse du dedans ou du dehors, de nous ou des choses, la réalité est la mobilité même. Devant le spectacle de cette mobilité universelle, quelques-uns d'entre nous seront pris de vertige. Ils sont habitués à la terre ferme, ils ne peuvent se faire au roulis et au tangage. Qu'ils se rassurent, le changement, s'ils consentent à le regarder directement, sans voile interposée, leur apparaîtra bien vite comme ce qu'il peut y avoir au monde de plus substantiel et de plus durable.
Et c'est passionnant, mais moi je vais le relire une deuxième fois pour être sûre d'avoir bien compris. Mathilde, du coup, ça me semble qu'on est un tout petit peu loin de la littérature qui s'adressait normalement aux 4-5 ans.
Mais non, Marie, détrompez-vous. On sait bien que les enfants ont une espèce d'instinct de la philosophie en tant qu'ils en possèdent l'ingrédient majeur, la capacité d'étonnement. Celui qui fait qu'ils se posent naturellement, si on peut dire, des questions portant sur le pourquoi et le comment des choses, l'être et le non-être, ou le temps, donc, pour en revenir à nos moutons du jour. C'est ce que démontre un autre ouvrage paru tout récemment à l'École des Lettres. Il est signé d'une philosophe qui s'appelle Edwige Chirouté, et le livre s'appelle « À quoi pense la littérature de jeunesse ?». L'autrice y établit le compte-rendu d'une recherche engagée il y a plus de 20 ans sur l'enseignement de la philosophie à l'école maternelle et primaire, à partir de la lecture d'albums, thématique qu'elle a travaillée par la mise en place d'ateliers dans des écoles. Son livre donne des outils à destination des enseignants, des bibliothécaires ou tous ceux qui voudraient pratiquer la philosophie avec les enfants. Il montre surtout que lire, c'est aussi une manière d'apprendre à penser. On souscrit absolument à cette idée.
Tellement, c'est presque, je sais pas, la banderole du book club de France Culture. Votre chronique Lecture Jeunesse est à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup Mathilde Wagman, à mercredi prochain. On arrive à la fin de ce book club et on joue au grand jeu des pages musicales. L'idée, c'est de repérer des airs musicaux dans les textes. Aujourd'hui, c'est l'auditeur Didier Pinault, tiens donc, qui joue avec nous. Il a repéré un extrait du roman qui s'appelle Les Réputations. Je vais en lire vraiment quelques mots. C'est un livre de Juan Gabriel Vasquez. La maison s'emplit de dialogues animés, de rires francs ou plus discrets. Quelqu'un demanda où était le tiers-disque. Quelqu'un d'autre, Gomez ou Valencia, se mit à chanter sans attendre que la musique s'élève. Une chanson qu'aimait Magdalena, mais il n'y avait aucune raison pour que Valencia ou Gomez le sache, ou sache que ses vers rappelaient à Malarino, sa femme absente, le grand vide qui s'ouvrait dans sa vie sans elle et l'amenait à tout regretter intensément.
Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre.
Merci beaucoup Ersin Karabulut d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Journal inquiet d'Istanbul, c'est paru chez Dargaud et pour l'instant il y a 2 tomes. Et merci à vous Kerem Topuz d'avoir assuré l'interprétariat de cet entretien. Au son aujourd'hui c'était Grégory Wallon, à la réalisation Gilles Blanchard. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.